Le prof nous l'a expliqué en cours de bio, la grande loterie des chromosomes fait de chacun de nous un être unique. Et puis on grandit et voilà, le groupe s'en mêle. Les autres aimeraient bien eux, qu'on soit plutôt comme tout le monde. Alors forcément, ça se complique quand le hasard, la vie quoi, s'entête à nous rendre encore plus différents. Et cette différence parfois rime avec souffrance. Sauf que dans différence se cache aussi le mot défi, celui de l'accepter.
Le monde est à nous. Cerise Maréchaux, Alice Mido.
Surmonter sa différence, c'est notre cri de ralliement dans Le Monde est à nous. Bonjour à tous et bonjour Alice.
Salut Cerise.
Tout l'été, chaque dimanche, deux jeunes entre 15 et 25 ans nous embarquent dans le tourbillon de leur vie pour explorer ce qui nous distingue et ce qui nous lie. Aujourd'hui, c'est Pascaline et Tom qui nous confient les secrets de leur singularité, sans oublier ceux qui, dans leur vie, les aident à braver les difficultés. Bref, à s'aimer. Bienvenue à tous. Il a 24 ans, mais il pourrait aussi bien en avoir 16 avec son visage doux et rond, entouré d'une tignasse brune coupée court. Tom vit à Saint-Ouen, il est comédien, mais aussi passionné d'écriture et de slam poésie. C'est en grattant compulsivement des textes et des poèmes hyper personnels que Tom a pu exprimer une partie de lui-même, sa différence à lui, un secret qu'il nous confiera tout à l'heure. Tom, tu es notre invité du jour, bonjour.
Bonjour.
Le monde est à nous, ce n'est pas un, mais deux jeunes qui se racontent et se rencontrent par la magie de la radio. Et toi, Alice, tu nous ouvres les portes du monde de Pascaline.
Oui, alors pour la petite histoire, j'ai rencontré Pascaline 21 ans à la piscine d'Antony en banlieue parisienne, où elle se rend tous les mercredis soirs avec le club handisport de sa ville. Pascaline plonge, nage, et ce n'est pas une évidence puisqu'elle est handicapée depuis la naissance. Aujourd'hui, du haut de ses 1m55, cette petite sirène est l'incarnation même de la joie de vivre, toujours fourrée avec ses copine, à se marrer ou à dénicher les nouvelles séries anglophones dont elle est fan, un quotidien qu'elle partage entre deux séances de kiné chez Karine, qui la suit depuis toujours.
Pascaline, ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais, très bien. Allez, on y va ?
Ouais.
Dans la séance ?
Ouais.
Allez, c'est parti. Voilà, tu vas t'installer allongée sur la table.
D'accord.
Allez, tu te prépares et on y va.
D'accord.
Ça va ?
Ouais.
Ça tire, hein ? Tu relâches. Jambe droite maintenant du coup. Ça y est, ça lâche.
Ouais.
Alors là, Pascaline, elle est allongée sur la table de massage.
Oui, tout à fait. Et puis on fait des étirements. Et le but, c'est d'étirer les muscles qui sont un petit peu contractés suite justement au stress, à la conduite. Voilà, sa vie un petit peu mouvementée en ce moment. Et donc on a une hypertonie qui s'installe et du coup nous en kiné on est là pour enlever cette hypertonie et gagner un peu sur la longueur musculaire.
Et alors pourquoi tu as besoin de ces séances de kiné en fait ?
Alors pourquoi j'ai besoin de ces séances de kiné ? Donc je suis née à 5 mois et demi, donc je faisais 680 grammes à la naissance.
Très très prématurée.
Très très prématurée, voilà, avec 25% de chances de survie à la naissance. Parce que en fin de compte c'était une grossesse gémellaire et donc ma mère a eu une infection pendant la grossesse. Donc ils ont provoqué l'accouchement et donc ils nous ont sortis donc avec une chance sur deux donc que l'on survive.
Une chance sur quatre.
Ouais, une chance sur quatre, voilà. On est né et on faisait 680 grammes à la naissance et 30 centimètres. Et volumétriquement, on pouvait me rentrer dans une bouteille d'eau d'un litre. J'ai des photos, c'est impressionnant, quoi. On se dit, mais comment ça fait pour vivre, quoi. Donc mon jumeau, lui, pendant ce temps-là, il a eu quelques problèmes niveau, je crois, cardiaque, si je ne me trompe pas.
C'était un garçon ?
Un garçon, voilà. Et donc de là, en fin de compte, ils ont dit à mes parents, voilà, il a plus que 10 jours à vivre. Ils ont profité comme ils ont pu, du coup, parce que on dit, mon père, en 10 jours, il faut donner tout l'amour qu'on a, et puis on sait que ça va s'arrêter. Et puis, moi, après, une fois que ça a été fait, une fois qu'il est décédé, moi, après, ils m'ont ramené à la maison, et puis on a commencé à vivre notre vie, quoi.
Tous les trois ?
Tous les trois. Donc tous les trois, et vers un an, on a su que là, le diagnostic du handicap a été posé parce que mes parents avaient trouvé que j'avais du retard dans tout ce qui était moteur. Donc je marchais pas, voilà. Et donc le diagnostic, là, on a su que j'avais un handicap moteur, donc que j'étais IMC, donc ça veut dire infirmité moteur cérébrale. Donc du coup, c'est le nom qu'on dit quand le cerveau n'a pas été très bien oxygéné à la naissance, en fin de compte.
Donc concrètement, en quoi constitue ton handicap aujourd'hui ?
Mon handicap aujourd'hui, en fin de compte, je suis touchée, donc surtout au niveau des jambes, parce que je veux dire, mes muscles n'ont jamais grandi en même temps que mes os. Donc ils sont en permanence rétraction, ils sont contractés tout le temps, donc jamais détendus, jamais au repos. Donc c'est pour ça qu'il y a la kiné d'ailleurs, parce que ça sert à tirer
et les longer
et les détendre, voilà.
Donc là, tu fais le flamant rose sur une patte.
Voilà.
dans le but de travailler l'équilibre. Hein, c'est ça, travailler l'équilibre. Toujours le travail dans l'espace, hein, qui est très important, pour que dans la rue et dans tout ce qu'elle fait dans ses activités, elle soit à l'aise. Mais ça, c'est des répétitions et des répétitions. Hein.
Donc, il y a les jambes. Et quelles sont les autres séquelles, alors ?
Alors, j'ai une dyspraxie. On connaît surtout la dyslexie. Donc, la dyspraxie, en fin de compte, c'est des problèmes de visio-spatialisation.
T'as du mal à te repérer dans l'espace ?
Ouais. Et puis, au fur et à mesure que je grandissais, ben, il a fallu mettre de l'orthophonie, de l'ergothérapie, de la kiné, bien sûr, et de la psychomotricité. Petite, je m'en rendais pas forcément compte. Enfin, c'est pas que je m'en rendais pas compte, mais j'y faisais pas si attention que ça, parce que c'est vrai, quand on me disait, ouais, t'as un handicap, je me souviens, genre, en CP, je disais, ouais, non, mais c'est pas grave, plus tard, quand je serai plus grande, ça disparaîtra. J'avais pas encore cette notion que ça sera à vie, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, oh, bah, c'est pas grave, je vais grandir, il va s'en aller, quoi. Je vais être tranquille, je vais être comme quelqu'un de normal, alors que pas du tout. Après, au primaire, c'est vrai que j'ai toujours eu des super amis, donc on a toujours essayé que je puisse faire comme elle, pouvoir m'aider. Ou moi, après, à sauter à la corde à sauter, je voulais absolument sauter à la corde à sauter, j'y arrivais pas. On a mis du mettre au moins 3-4 mois à essayer que j'arrive à sauter par-dessus la corde à sauter en coordination, et quand j'ai su le faire, on s'est éclaté, quoi. Parce que j'avais ce côté très frustré de me dire je les voyais sauter, puis moi, j'arrivais pas à sauter, quoi, et c'était frustrant, quoi.
Hop, sur la ligne. Voilà, on va en zone la ligne. Voilà, hop. Donc c'est ça qu'il faut gérer, c'est
les frustrations.
Les frustrations, c'est-à-dire qu'elle a envie de, voilà, pour l'avenir, de faire des choses. Malheureusement, bah c'est vrai qu'elle se rend compte qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, hein, qui sont difficiles pour elle liées au handicap. De temps en temps, on leur dit c'est pas possible. Vu l'équilibre que tu arriveras jamais à tenir sur des skis ou à faire du patin ou à faire la trottinette ou à faire. Et de temps en temps, on est un peu bluffé. Ils arrivent à nous démontrer que on a peut-être un peu tort, et donc moi en kiné je suis toujours là pour leur dire mais faut y aller, hein, faut essayer, hein, faut tenter, surtout si le jeune a envie de le faire, quoi. C'est d'autant plus faut pas rester sur des frustrations, et donc là le but c'est ça, hein.
Et d'éviter le fauteuil roulant.
Alors le fauteuil roulant, on peut toujours le prendre quand il y a une fatigue importante ou sur des longs trajets. Et donc ça, le fauteuil roulant, c'est vraiment un atout pour eux, c'est une aide. Hein. Faut pas prendre le fauteuil roulant comme quelque chose de négatif, mais au contraire comme quelque chose qui va les aider. C'est bon, t'arrêtes, Pascaline. Okay.
Tom, tu as 24 ans. Qu'est-ce que t'inspire cette première rencontre avec Pascaline ?
J'ai l'impression qu'elle a énormément de courage. Voilà, j'aurais envie de dire ça. Qu'elle a, c'est peut-être pas le bon mot, courage, parce que elle a pas eu le choix. Donc, ça a l'air d'être une fille complètement pétillante et elle a l'air très chouette.
Toi, ta différence, Tom, elle se situe ailleurs. Est-ce que tu peux nous raconter ?
Ouais, bien sûr. Moi, je suis transgenre, donc ça veut dire que je suis née dans un corps féminin, enfin en tout cas que la société appelle féminin, et je me considère comme garçon. Voilà où est ma différence par rapport à la plupart des personnes qu'on appelle des personnes cisgenres, c'est-à-dire qui se conforment dans leur genre de naissance.
Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça a grandi en toi, cette évidence-là ?
Cette évidence, elle a commencé très jeune, et au fur et à mesure, et c'est ce que je notais là en écoutant Pascaline qui parlait, c'est le regard des autres au final qui te fait prendre conscience de la chose, que tu te dis « Ah, j'ai l'impression que je suis pas du bon côté, quoi ».
Mais ce regard des autres, il était comment ? Ou les mots des autres, qu'est-ce qu'ils te disaient pour t'amener à cette prise de conscience ?
C'est-à-dire que quand moi, au fur et à mesure, je me rendais compte que on me genrait au féminin, c'est-à-dire qu'on me parlait au féminin, moi, au début, ça me semblait bizarre, ça me semblait étrange. Et puis, c'est au fur et à mesure que j'ai compris, un peu comme Pascaline a compris qu'elle avait un handicap, moi, j'ai compris qu'on me considérait comme une femme.
Au-delà de te genrer au féminin, est-ce que tu recevais aussi des remarques sur ton comportement ?
Après, oui, il y a toujours cette chose-là où forcément, une petite fille qui fait des activités de garçon, on va dire qu'elle est garçon manqué. J'ai toujours eu les cheveux courts, j'ai beaucoup aimé, entre gros guillemets, les jeux de garçon. Et du coup, j'ai très vite eu aussi ces rapports. En tout cas, on m'a toujours considéré comme un garçon manqué quand j'étais enfant.
Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné où tu t'es dit « Ok, en fait, je me sens comme un garçon. Je ne suis pas une fille, je suis un garçon. »
Ouais, il y a eu plusieurs fois ce déclic, il est venu plein de fois, mais il y a eu plein de moments où il est venu et où je l'ai refusé. C'est-à-dire qu'il est venu, il y a des premières fois où je me suis dit, ok, je me sens plus comme un garçon. Quand j'étais, dès la primaire, je me sentais déjà garçon, mais je me dis non, mais ça doit pas être ça, du coup, je le repoussais à plus tard. Avant que je puisse l'accepter, il y a eu vraiment un certain nombre de fois où je me suis dit, mais j'ai vraiment l'impression d'être un garçon. Mais le truc, c'est que je pensais que c'était pas possible. Il y avait vachement cette chose-là aussi de, c'est pas possible de se sentir garçon alors que tout le monde te dit que t'es une fille. Donc, c'est que tu dois te tromper quelque part.
Et à quel moment c'est devenu définitif en toi alors ?
Bah, il y a eu la première fois que j'ai compris que ça pouvait exister. Les transgenres, en tombant sur des émissions, à me dire « Ah oui, en fait, c'est possible de se sentir dans un corps qui n'est pas le nôtre. » Et cette chose-là, ça a été très libérateur la première fois que je l'ai entendu, mais malgré tout, je ne pouvais pas l'accepter tout de suite.
Et qu'est-ce qui bloquait à chaque fois ?
Je pense que ce qui me bloquait, c'était le côté c'est quand même très compliqué, c'est quand même un parcours énorme. C'est surtout ça, c'est surtout face au parcours qui est énorme que je me flippais trop, en fait.
De Die and Food sur RFI, c'est le choix musical de Tom, 24 ans, comédien et passionné de slam. Il y a 24 ans donc, tu es née fille et aujourd'hui tu es un garçon. Est-ce que tu veux bien nous raconter et nous expliquer les moyens de ta transformation ?
Alors déjà juste, on va parler plutôt de transition plutôt que de transformation, c'est un terme très important, parce qu'on se transforme pas, on n'est pas des petits papillons qui sortent de larves. Je le précise pour une fois pour toutes, c'est vraiment à chaque fois un parcours très personnel.
Mais tout n'est pas nécessaire en fait.
Voilà, il y a aucune chose même nécessaire. Si on veut, on peut décider du jour au lendemain de dire bah moi je suis un garçon, mais j'en sais rien, je peux garder les cheveux longs, je peux garder ce que je veux. Moi en tout cas chez moi, ça passe par une décision de prendre un traitement hormonal. Ce traitement hormonal va me créer une puberté, qui est une puberté tout à fait classique, qui fait pousser les poils, qui rend la voix plus grave, etc.
C'est un traitement que tu as commencé ?
Ouais, c'est un traitement que j'ai commencé il y a maintenant deux mois.
Et comment tu te sens ?
Et je me sens très bien. Je suis très contente d'avoir commencé.
Et ça marche ?
Et ça marche plus ou moins. Oui, là, pour l'instant, je suis encore micro-dosée, donc les changements sont très légers, mais ma voix a commencé à muer un petit peu.
Et c'est un traitement auquel tu as accès librement ?
Alors, c'est un traitement pour y avoir accès en France aujourd'hui. On a besoin d'être évalué par un psychiatre. Puis donc d'obtenir une attestation d'un psychiatre, puis de prendre rendez-vous avec un endocrinologue, c'est lui qui donne les hormones. Et pour cela, il faut donc du coup une attestation de psychiatre.
Et qu'est-ce que tu dois prouver en quelque sorte à ce psychiatre pour qu'il te donne cette attestation ?
En gros, il faut lui prouver qu'il ne s'agit pas d'une autre pathologie de folie. En fait, pour eux, il s'agit de vérifier qu'il ne s'agit pas, je ne sais pas moi, de schizophrénie, de n'importe quelle pathologie de folie. En sachant qu'on peut tout à fait être schizophrène et transgenre en même temps. En gros, le principe du psychiatre, c'est qu'il va vérifier qu'il ne s'agit pas d'une idée impulsive ou je ne sais pas trop.
Ou tu serais embrigadé par quelqu'un qui t'aurait influencé ou quelque chose comme ça.
C'est ça.
Et en France, aujourd'hui, il est autorisé de changer de sexe sur son état civil. Est-ce que c'est ton cas ?
En fait, alors c'est très compliqué pour changer aujourd'hui. Il y a une loi qui est passée. Alors déjà, je vais parler de changement de prénom. Le changement de prénom, il y a une loi qui est passée en novembre. Enfin, le décret d'application est passé en novembre. Il faut savoir que moi, je suis allée dans ma mairie. Pour l'instant, ils ne le font pas.
Parce que là, tu t'appelles Tom. Enfin, en tout cas, tu t'es présenté à nous comme
voilà.
Tom.
Mais sur ma carte d'identité, c'est pas le prénom qui est écrit.
C'est lequel ?
Donc, c'est mon ancien prénom, mon prénom de naissance. Et ce prénom de naissance, pour l'instant, je ne peux pas le changer sur ma carte d'identité. En fait, normalement, je peux le faire, sauf que le décret d'application étant passé en novembre, mais ils sont pas encore à jour dans les logiciels. Donc, c'est très compliqué. Il y a énormément de mairies aujourd'hui. On crée des pétitions en ce moment avec les associations trans pour essayer de faire bouger ça, parce que c'est censé être depuis déjà novembre. On est déjà quand même en juillet, et c'est toujours pas le cas.
Et quand cette loi sera appliquée, théoriquement, elle assouplit quand même les démarches, puisque jusqu'à présent, il fallait prouver que la décision, elle était irréversible.
Tout à fait. Avant, il fallait prouver, il fallait encore donner des choses médicales, alors que là, aujourd'hui, normalement, la loi dit qu'on peut changer de prénom beaucoup plus facilement et qu'on n'a pas à donner de preuves médicales, en fait. On a tout simplement à prouver que c'est bien pour nous, enfin, que c'est quelque chose dont on a besoin, donc avec des témoignages de proches, avec, pourquoi pas, si possible, des papiers pas administratif, mais par exemple une inscription à la piscine, une inscription à la bibliothèque, ce genre de papier pour montrer que c'est un prénom d'usage en tout cas, qu'on utilise.
Et est-ce que tu envisages à court terme ou à long terme de faire une opération des parties génitales, je sous-entends ?
D'accord, ok, carrément. Alors, les opérations. Il faut savoir que les opérations, donc je le répète, mais je préfère me répéter, ne sont absolument pas obligatoires pour être considérées comme transgenres. C'est une chose très importante. Je suis pas sûre d'avoir envie de répondre à cette question, en ce qui me concerne, en sachant que c'est une des questions qu'on nous pose le plus quand on rencontre des gens et qu'on leur dit qu'on est transgenre. Même dans un bar, ce qui est quand même assez hallucinant, tu rencontres quelqu'un et s'il comprend que t'es transgenre, c'est la première chose qu'il va demander. Ah ouais, mais du coup, t'as fait les opérations, tu vas faire les opérations. Comme s'il y avait les opérations, en fait. Il n'y a pas les opérations, il y a des milliers de choses qui peuvent être possibles pour se masculiniser dans mon sens ou pour se féminiser dans l'autre sens. Ces opérations-là, en fait, j'ai envie de dire, il y en a, il n'y en a pas, peu importe en fait. Que...
Ça ne regarde pas.
Ouais, en fait, c'est ça. C'est une question très intime et qui, je pense, relève plus du domaine amical, personnel, familial que...
En tout cas, pour toi, ça ne constitue pas une nécessité pour te sentir garçon.
Tout à fait.
Okay. Comment les gens ont réagi autour de toi à ton changement d'identité, à ta transition ?
Ça a été très varié. Mes proches amicaux, moi je suis dans un cercle, j'ai la chance de faire du théâtre, d'être dans un cercle qui est quand même assez ouvert. Donc ont très très bien réagi, mon école de théâtre a très très bien réagi. Ma famille est également très ouverte, a très bien réagi aussi. Alors quand je dis très bien réagi, forcément il y a des difficultés, il y a des choses qui sont compliquées à accepter, qui sont compliquées à admettre, mais je pense que c'est le temps aussi qui fait les choses. Mes parents ont vraiment assez bien accepté, mais malgré le fait qu'ils acceptent, ça n'empêche qu'il y a des difficultés, ils ont peur pour moi. Moi, j'ai une chance d'être bien entourée, c'est que les réactions, on va dire, les seules réactions entre guillemets négatives que je vais avoir, c'est plus de l'ordre de l'inquiétude que de l'ordre du rejet.
Toi, tu es un garçon, pour toi, à ton propre regard, depuis longtemps. Après, il y a aussi le regard des autres. Est-ce que tu as fait une sorte de coming out pour que les choses soient claires une bonne fois pour toutes ?
Ouais, j'ai fait plusieurs coming out. En fait, j'en fais encore plein de fois. Donc, j'enverrai le lien de l'émission à ceux à qui je l'ai pas encore fait. En fait, c'est un coming out permanent en ce moment parce que y a toujours quelqu'un que je croise que j'ai pas vu depuis 10 ans et que je me dis ah merde. Du coup, il va falloir que je lui redise. Maintenant, je suis plus à l'aise avec ça. Mais oui, j'ai fait des coming out très officiels. J'en ai fait un pour mon travail. J'en ai fait un à mes parents. J'en ai fait un à mes amis proches. Plus le temps passe, plus j'en fais régulièrement. Et puis, plus maintenant, j'en fais moins tout un plat. Et je dis ah au fait, je veux bien juste te dire ce truc. Voilà quoi.
Restez avec nous, on continue de parler de la différence et comment la surmonter pour mieux la sublimer avec Pascaline, 21 ans, et Tom, 24 ans. Le Monde est à nous revient juste après Flash dans 3 petites minutes.
Le Monde est à nous.
Puisqu'on en est aux confidences de jeunesse, je vais t'en faire une de confidence.
J'écoute.
Le Monde est à nous. Cerise Maréchaux, Alice Milot.
Le Monde
est à nous, le magazine de l'été qui donne la parole aux jeunes. Et même si ça fait longtemps que vous n'avez plus 20 ans, restez branchés, cette émission est aussi la vôtre. Et aujourd'hui, on met les points sur les i qui se trouvent dans différence, dans singularité, irremplaçable aussi. Et le i de génial, pourquoi pas, tant qu'on y est. Sans oublier le i de adversité et créativité. Surmonter la différence grâce à une passion ou à l'art, c'est notre sujet d'aujourd'hui avec Tom, 24 ans, comédien et enfant du slam. Gratter sur un carnet ou déclamer en public, sa prose l'a aidé à mettre des mots sur son cheminement identitaire. Née fille, Tom est officiellement devenu garçon, il n'y a pas si longtemps. Pascaline, quant à elle, est née avec un handicap dû à sa naissance très prématurée, il y a 21 ans. Mais rien ne l'empêchera tous les mercredis d'enfiler son maillot pour rejoindre le club handisport, natation et plongée à la piscine d'Antony. Les mercredis soirs donc, le bassin leur est réservé et Alice a saisi l'occasion pour s'y faufiler avec Pascaline. Allez, prenez une grande respiration, c'est parti.
Alors Pascaline, où est-ce qu'on est ici exactement?
Bah ici on est à la piscine, donc il y a le petit bassin qui est juste devant moi et juste derrière toi il y a le grand bassin où il y a les... Il y a le club de natation d'Antony qui vient juste de finir de faire sa séance du soir. Donc là on va avoir le bassin pour le club handisport, donc ça va être bien. Donc là sur ce soir on n'a que deux qui sont en fauteuil. Et on a Victor, qui est pas là pour le moment, mais qui est autiste.
Laurent et Didier, là, s'apprêtent à descendre dans le bassin. Oui. Donc concrètement, comment ça va se passer avec les fauteuils?
Et ben, en fait, il y a un lève-personne. Et donc, du coup, c'est comme une sorte de, on va dire, de poulie, en fin de compte.
Et donc, ça va être le tour de Laurent, là.
Voilà, là, ça va être le tour de Laurent.
On peut faire l'autre aussi, ou pas?
Là, c'est bon.
C'est bon, les deux?
Ça va aller, ça va.
Là, on y va?
Ouais.
Axel, tu peux baisser un peu, s'il te plaît?
Laurent, vous êtes installé dans le lève-personne?
Oui, dans le crabe.
Donc vous allez quitter le fauteuil, là?
Oui, je vais m'élever au-dessus du fauteuil grâce au système.
Bonne baignade, alors.
Merci. Je vous dirai si elle est chaude.
On vous le souhaite, hein.
Et vous me croyez si vous voulez.
Et Pascaline, là, on voit donc Laurent. Ça y est, Laurent est à l'eau.
Oui.
Et alors, pas de baignade pour toi aujourd'hui?
Non, pas de baignade pour moi aujourd'hui. Ça va faire un peu plus de 10 ans ouais, maintenant que je fais partie du club plongée natation.
Alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette histoire?
Alors, en fin de compte, je suis arrivée dans le club pour apprendre à nager parce que apprendre à nager avec des moniteurs valides, soit on m'a refusé. Le handicap peut bloquer les gens, donc du coup, on a trouvé par hasard le club Andy. Et en fin de compte, je suis tombée sur un super moniteur qui m'a aidée, enfin qui est un des membres du club d'ailleurs, qui était moniteur à l'époque. Et donc du coup, qui m'a appris à nager, ça a mis du temps, mais on y est arrivé quoi. J'ai dû mettre 2-3 ans. Mais.
Et ton prof, il s'appelait comment?
Thierry.
Et donc Thierry, ça a été quoi sa pédagogie avec toi?
En fin de compte, il s'est mis à l'eau avec moi. Il m'a montré, il est resté avec moi quand je paniquais. Et une fois qu'il m'a dit « t'es prête », il est sorti de l'eau. Il m'a prouvé que je pouvais, que j'allais pas me noyer et que je pouvais le faire tout seul. On a pris beaucoup plus de temps. Il m'a montré, on a fait tous les deux s'il y avait besoin les exercices. Et puis voilà. Et puis après, tout doucement, une fois que j'ai bien su nager et que j'en avais marre, j'ai dit « on va essayer la plongée ».
Donc la plongée sous-marine.
Donc la plongée sous-marine. Donc du coup, je me suis mis à la plongée par la suite, en fin de compte.
Avec masque, bouteille. Masque,
bouteille et puis les palmes et puis c'était parti la combi et puis voilà. 1, 2.
Donc dans ce bassin-là, en fait, vous familiarisez avec ce que c'est que de respirer dans une bouteille,
voilà,
de nager avec une bouteille sur le dos.
Voilà. Ce qui me permettait en fin de compte de faire les stages que le club fait une fois par an à l'étranger. Le premier pays que j'ai fait, c'était le Sultanat d'Oman. Ensuite, j'ai fait l'Égypte. Après, mon dernier voyage, c'est les Maldives.
Génial!
Ouais, les Maldives, c'était génial. En plus, les Maldives, j'étais doublement contente parce que moi qui voulais absolument voir des requins, on est tombé pendant le voyage, un mois avec une plongée avec des requins, donc j'étais super contente.
T'es capable aujourd'hui de descendre jusqu'à combien de mètres?
Alors aujourd'hui, je peux descendre jusqu'à 40 mètres accompagnée.
Est-ce que tu te sens moins handicapée dans l'eau?
Oui, le corps, on n'y pense pas. Voilà, on vit notre moment et puis on flotte. On a plus vraiment ce problème de handicap. Mais on vit le moment, quoi. Le reste est complètement oublié.
Ça t'a surpris ce que t'as découvert sous l'eau? Ou tu t'attendais un peu à ce monde-là?
Je m'attendais un peu à ce monde-là, mais on est là où j'étais le plus surpris, je pense que c'est l'Égypte, c'est de voir, ou certaines destinations aux choses, c'est de voir autant de coraux morts, où là, je me suis dit, waouh.
Donc en fait, c'est des coraux qui sont arrachés
sont
par les angles.
Qui sont arrachés par les angles, donc qui jonchent le sol, et il y a des fois, on peut faire 10-20 mètres où il y a que ça sur le sable, quoi. Donc, du coup, on s'est dit, ouais, ça devait être magnifique avant, et on a perdu ça. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment le plus surpris après. Puis on se dit que ça a des répercussions sur tout l'ensemble de l'écosystème marin, quoi.
Et c'est important, au-delà de ça, mais c'est important pour toi de pratiquer un sport.
Oui, c'est important parce que c'est ce qui me maintient en forme. C'est ce qui me permet d'avoir moins de raideur dans les jambes, ce qui permet d'entretenir mon corps.
C'est un bon complément de la kiné,
en fait. C'est un bon complément de la kiné, et puis c'est un bon moyen à long terme de se dire « Ouais, je vais y revenir, on va dire. Je vais peut-être avoir moins de complications de ce que j'aurais pu avoir si j'avais pas fait de sport, quoi. »
Tom, toi aussi, tu aimes nager ?
Tout à fait. J'ai fait de la natation pendant 2-3 ans, quand j'étais plus jeune. Et là, ça fait un petit temps que j'ai arrêté, du coup. J'y suis retournée il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, nager, enfin, en me disant, écoute, en fait, tu t'en fous un peu du regard des autres. Mais ça m'a pris quelques années, quand même. Parce que, du coup, forcément, là, pour aller nager, moi, pour l'instant, je vais encore dans le vestiaire féminin. Il se trouve que j'ai pas encore fait mon opération du torse. Il se trouve qu'il y a aussi une piscine à Paris où j'ai pas encore eu l'occasion d'aller, mais qui ouvre exprès pour les transgenres une fois par semaine. Et qui permet aux personnes transgenres de venir, on va dire, un peu dans le maillot de bain de leur choix.
Donc Tom, tu as 24 ans, tu nous as raconté en première partie ta transition de fille à garçon. Dans la vie, tu es comédien et depuis très longtemps passionné d'écriture. Alors comment ça a commencé, cette passion pour l'écriture ?
Il faut savoir que mon père écrit beaucoup, mes deux parents sont libraires et mon père écrit énormément. Il est toujours avec des carnets, toujours en train d'écrire, donc c'est vraiment quelque chose que je pense que j'ai fait assez vite par mimétisme.
D'ailleurs là, tu as un carnet.
D'ailleurs j'ai un carnet,
tu grattes depuis le début de l'émission.
Je suis très souvent en train de en même temps que j'écoute, j'ai toujours envie d'écrire ou de gribouiller, de dessiner. Enfin, j'ai toujours ce réflexe de sortir un papier et un stylo. Et très très vite, j'ai eu envie, enfin moi dès que j'ai appris à écrire, je me suis amusée à écrire des histoires, à écrire des petites choses, des petits voilà, des poèmes, parce que mon père écrivait pas mal de poésie.
Et à 14 ans, donc tu découvres le slam, donc à travers des ateliers d'écriture, puis des performances sur scène. Dans quel contexte, en fait, t'as fait cette découverte du slam ?
Alors en fait, j'étais à un anniversaire, pour l'anniversaire de mon père. On était dans une fête et j'ai écrit un poème pour souhaiter l'anniversaire à mon père, mais vraiment 2 minutes avant qu'on souffle les bougies, comme ça, en 2 minutes sur un capot de voiture. Et puis un ami à mes parents qui leur a dit, bah quand même, c'est assez chouette ce qu'il a écrit, bah moi je suis dans un atelier slam, je peux l'emmener avec moi.
Et voilà. Tu connaissais ?
Je connaissais pas du tout le slam, mais du coup je me suis retrouvée dans cet atelier avec que des adultes. Enfin, il y avait un autre jeune en plus de moi, et sinon il y avait que des adultes. Et on s'est retrouvés comme ça une fois par semaine à écrire pendant 2 heures sur une thématique. Et puis, comme vous disiez, à partager après cette écriture.
Ça, c'est le principe du slam.
C'est le principe du slam, ouais. Le principe, c'est que l'écriture doit venir de nous-mêmes à la base, et le principe, c'est de le partager, quoi. Il y a ce moment d'écriture, mais il y a surtout le moment de le lire et de le donner aux autres, quoi.
Et alors, tu racontais tout à l'heure que l'écriture, c'était un jeu au début, mais après, j'imagine que c'est devenu une manière d'exprimer un ressenti.
Ouais, bien sûr, mais tout en restant un jeu, et c'est ça qui est assez chouette. Et en même temps, je me suis rendu compte que ça exprimait des choses, mais je m'en suis rendu compte après, je pense. Sur le coup, j'avais juste l'impression de m'amuser et que c'était chouette et que c'était rigolo. Et je pense que c'est après coup que je me suis rendu compte, en fait, en relisant mes textes de l'époque, où en fait, je parlais déjà des difficultés, je parlais des choses très très intimes, ouais. Oui, c'est sûr.
Et quel rôle, justement, jouait l'écriture et le slam dans ton cheminement, dans ta transition ?
Je pense que l'écriture, en fait, elle m'a permis de moins déprimer, on va dire ça. Pour dire ça, on va dire, là, je le dis de manière gentillette, elle m'a permis de survivre, finalement. Parce qu'il y avait un espèce de truc qui me permettait d'exprimer. Et en fait, à partir du moment où tu exprimes quelque chose, bah, c'est comme avec le théâtre et la catharsis, ça permet de se soulager un petit peu, quand même.
Ça sort de toi. Est-ce que tu te souviens quel mot tu posais, ou tu continues de poser, peut-être, sur ta transition ?
C'était quelque chose, j'exprimais vachement ce côté d'arrachement du corps. Je sais que c'est vraiment quelque chose qui était très fréquent dans mes textes, de s'arracher la peau, de s'arracher le corps, de s'arracher de crier, de il y avait vachement ces mots là qui étaient là, et aujourd'hui ils se sont un peu apaisés. Aujourd'hui j'essaie de faire la paix aussi avec mon corps tel qu'il est, c'est-à-dire de dire, ok, mon corps il est peut-être pas comme j'aurais voulu qu'il soit, sauf que je fais la paix avec lui, quoi.
On peut pas vraiment dire qu'on choisit son lieu de naissance, ce que vont découvrir petit à petit les 5 sens. Un jour, mes parents ont posé leurs valises, alors voilà, ce sont ces trottoirs qu'ont vu mes premiers pas. Je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l'ennui. Je viens de là où en bas ça joue au foot au milieu de la nuit. Je viens de là où on fait attention à la marque de ces textiles. Et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style. Je viens de là où le langage est en permanente évolution. Verlan, rebeu, argot, gros processus de création. Chez nous, les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez-vous. On n'a pas tout le temps le même dictionnaire, mais on a plus de mots que vous. Je viens de là où les jeunes ont tous une maîtrise de vanne. Un DEA de Chambray, tu ne répartis jamais en panne. Intelligence de la rue, de la démerde ou du quotidien. Appelle ça comme tu veux, mais pour nous carotter, tiens-toi bien. On jure sur la tête de sa mère à l'âge de 9 ans. On a l'insulte facile, mais un vocabulaire innovant. Je viens de là où dans les premières soirées, ça danse déjà le break. Je viens de là où nos premiers rendez-vous se passent autour d'un grec. Je viens de là où on aime le rap, cette musique qui transpire, qui sent le vrai, qui transmet, qui témoigne, qui respire. Je viens de là où il y a du gros son et pas mal de rimes amères. Je viens de là où ça choque personne qu'un groupe s'appelle Nique ta mère. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là où dès 12 ans, la tentation te fait des appels, du business illicite et des magouilles à l'appel. Je viens de là où il est trop facile de prendre la mauvaise route, et pour choisir son chemin, faut écarter pas mal de doutes. Je viens de là où la violence est une voisine bien familière, un mec qui saigne dans la cour d'école, c'est une image hebdomadaire. Je viens de là où trop souvent un paquet de sales gamins trouvent leur argent de poche en arrachant des sacs à main. Je viens de là où on devient sportif, artiste, chanteur, mais aussi avocat, fonctionnaire ou cadre supérieur. Surtout te trompe pas, j'ai encore plein de métiers sur ma liste. Évite les idées toutes faites et les clichés de journaliste. Je viens de là où on échange, je viens de là où on se mélange. Moi c'est l'absence de bruit et d'odeur qui me dérange. Je viens de là où l'arc-en-ciel n'a pas 6 couleurs mais 18. Je viens de là où la France est un pays cosmopolite. Je viens de là où plus qu'ailleurs il existe une vraie énergie. Je ressens vraiment ce truc là, c'est pas de la démagogie. On n'a pas le monopole du mérite ni le monopole de l'envie. Mais de là où je viens c'est certain, c'est une bonne école de la vie. Je viens de là où on est un peu méfiant et trop souvent parano. On croit souvent qu'on nous aime pas mais c'est peut-être pas complètement faux. Il faut voir à la télé comment on parle de là où je viens. Si jamais je connaissais pas, j'y emmènerais même pas mon chien. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là où comme partout, quand on dort, on fait des rêves. Je viens de là où des gens naissent, des gens s'aiment, des gens crèvent. Tu vois bien de là où je viens, c'est comme tout endroit sur terre. C'est juste une petite région qui a un sacré caractère. Je viens de là où on est fier de raconter d'où l'on vient. Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça, on est tous un peu chauvins. J'aurais pu vivre autre chose ailleurs, c'est tant pis ou c'est tant mieux. C'est ici que j'ai grandi, que je me suis construit. Je viens de la banlieue.
C'était le choix de Pascaline. Je viens de là, Grand Corps Malade sur RFI dans Le Monde est à nous. Grand Corps Malade qui est notre expert aujourd'hui.
Est-ce que le monde est à nous?
Le monde est à nous.
Il n'y a personne d'autre qu'à nous, à nous seuls.
Comme vous le savez, chaque dimanche, les dernières minutes de l'émission sont consacrées à notre expert. On vous rappelle rapidement le concept. Un des deux jeunes de l'émission interview un adulte de son choix qui l'inspire ou qui l'admire pour lui demander des conseils. Aujourd'hui, c'est Pascaline qui se fait plaisir. Elle a rencontré en personne son idole Grand Corps Malade, poète et slameur, handicapé à l'âge de 20 ans suite à un accident en plongeant dans une piscine. Aujourd'hui, Grand Corps Malade est un artiste complet. Cette année, il a d'ailleurs co-réalisé avec Mehdi Idir le film Patient, adapté de son autobiographie en prose où il raconte la vie et son expérience dans un centre de rééducation. Donc, agenda très chargé pour Grand Corps Malade, mais qui a pris le temps de retrouver Pascaline dans un café parisien.
J'ai 2-3 questions à vous poser. Après l'accident, comment le handicap a changé votre vie ?
Bah, évidemment, il change absolument tout. C'est un virage à 180 degrés. Puisque moi, avant l'accident, donc je faisais beaucoup de sport. J'aspirais à être sportif, peut-être de haut niveau ou en tout cas d'un bon niveau. Et j'aspirais aussi à être prof de sport, prof de PS en collège ou lycée. Donc forcément, à l'âge de 20 ans, c'est quand même un sacré virage. Et il faut tout réorganiser, changer de projet de vie. Alors du coup, c'est compliqué, ça prend du temps. Il y a deux choses. Il y a d'abord mentalement, il faut accepter que voilà, on sera plus jamais comme avant. Et puis après, c'est physiquement. C'est que moi, au départ, j'étais tétraplégique, c'est-à-dire paralysé des quatre membres. Je pouvais me servir ni de mes bras, ni de mes jambes, ni de mes mains. main, enfin voilà. Et du coup, j'ai eu la chance d'être ce qu'on appelle tétraplégique incomplet, c'est-à-dire qu'il y avait des éléments de récupération, il y a des muscles qui reviennent. Donc le premier combat, avant de savoir qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, c'est déjà de récupérer le maximum de choses. Donc du coup, c'est difficile à dire comment on l'accepte. On l'accepte petit à petit. C'est voilà, c'est un travail de longue haleine. On fait deux petits deuils par petit deuil. Et puis au final, au bout d'un an, je m'aperçois que je suis dans mon état physique à peu près définitif. Donc là, il me reste encore un peu de temps pour accepter les choses. Alors le premier combat, c'était celui de l'autonomie. Donc ça, j'ai eu une grande chance, c'est qu'au moins je suis redevenu complètement autonome. Je suis debout, j'ai ma voiture, je me déplace tout seul, j'ai besoin de personnes pour faire les gestes du quotidien. Donc ça, c'est le premier combat. Et puis le deuxième, voilà, c'est retrouver un projet de vie. Donc le sport, c'était terminé. Donc voilà, il a fallu retrouver autre chose.
Est-ce qu'à un moment donné, dans votre vie, donc après l'annonce du handicap, que ce soit plusieurs mois plus tard ou quelques années, est-ce qu'il y a eu un déclic qui vous a aidé donc justement à rebondir justement suite à ça?
Non, je pense pas qu'il y ait eu un événement, je pense pas qu'il y ait eu de déclic. Enfin, pour ma part, ça a été vraiment un apprentissage petit à petit, un réapprentissage, une acceptation petit à petit. Au départ, le mot handicapé, tu l'assumes à moitié. Tu vois, on est assez différents, toi et moi. C'est que toi, le mot handicapé, il t'a suivi tout de suite. Voilà, t'es né avec. C'est comme ça. Donc, je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, pas du tout. En revanche, c'est différent. Moi, pendant 20 ans, j'étais le gamin le plus sportif du monde. Et à 20 ans, je deviens handicapé. Donc, du coup, là, ce terme-là, il est très compliqué à accepter. Au début, tu dis non, moi, j'ai un problème, mais les autres sont handicapés, pas moi. Et puis, petit à petit, tu l'acceptes. Et donc, voilà, moi, pour moi, il n'y a pas vraiment de déclic. Après, dans ma vie, il y a eu un déclic, ça a été le slam, qui fait que j'ai retrouvé une passion, j'ai retrouvé un projet de vie, j'ai retrouvé une envie de me lever le matin grâce à quelque chose de précis qui était l'écriture, le slam, et puis après la musique, les tournées. Donc, ouais, ça, le déclic, ça a été la rencontre avec le slam. Et forcément, ça m'a aidé à retrouver une joie de vivre totale, etc. Mais ça n'a pas été le slam qui m'a fait accepter mon handicap. Ça, je l'avais déjà accepté quelques années avant, mais ça a été un travail de longue haleine.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que votre handicap a été un mal pour un bien dans votre vie?
Ça m'arrive qu'on me pose la question. Aujourd'hui, t'es grand corps malade, tu fais des films, tu fais des disques, des tournées, la vie est belle. Oui, c'est vrai qu'elle est belle. On me dit donc finalement, c'est un mal pour un bien. Bah là, je dis non. 100% non. On peut très bien vivre sans être célèbre et sans faire de la musique et des belles tournées. On peut pas très bien vivre quand on a un handicap, parce qu'au quotidien, ce truc-là, il te colle à la peau et il y a toujours des choses qui sont compliquées. Donc, si on prend dans la globalité, non, c'est pas un mal pour un bien. Après, ta question, c'est qu'est-ce que ton handicap t'a apporté? Ça, oui, il m'a apporté beaucoup de choses. Il m'a certainement apporté une force mentale. Quand voilà, c'est bête et méchant, mais quand t'as des faiblesses physiques, et ben forcément tu développes une force mentale. Et je pense que je me suis renforcé mentalement. Je pense que voilà, on a une capacité à prendre du recul sur les choses, à relativiser les problèmes, parce qu'on sait qu'il y a des choses plus compliquées. Et puis du coup, ben voilà, moi je profite de plein de petites choses. Puis bon, dans mon métier, forcément, il m'a sûrement amener ce handicap à m'amener à développer d'autres choses, notamment ma petite fibre artistique qui existait certainement en moi mais que j'aurais peut-être pas développé si j'avais continué de faire du sport comme un bourrin à 100%. Donc ouais, il m'a apporté plein de choses ce handicap. Mais si on le prend dans la globalité, je dirais jamais que oh, tant mieux que ça me soit arrivé. Si c'était à refaire, j'éviterais.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune en situation de handicap pour pas que ça devienne justement un obstacle, un empêchement, enfin un fardeau quoi, toute sa vie quoi, qui reste pas en permanence sur lui-même replié, au contraire que justement le handicap, ok, on l'a, mais pour justement qu'il profite de la vie à fond quoi, parce qu'on en, comme on sait, on n'en a qu'une et vaut mieux t'en profiter tant qu'on l'a quoi.
Bah, faut lui dire ça. Ah. Okay. Faut lui dire ça, c'est une très belle chose.
Parce qu'il y a les questions et les réponses.
Ouais. Non, mais c'est ça. Après, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas une phrase qui... Tous les gens sont différents, c'est pas en lui disant ça qu'il va dire, ah bah ouais, t'as raison, et d'un seul coup, le lendemain matin, il se réveille et profite de la vie. Mais en tout cas, les deux choses que je dirais, la première, c'est celle-là. Quoi qu'il arrive, il y a des choses à faire. Et la deuxième chose, je dis, c'est certainement d'aller en discuter. Je parle pas forcément à des psys et tout, non, plutôt avec d'autres personnes qui ont eu un handicap, qui ont peut-être un petit peu plus d'expérience, qui ont peut-être eu un handicap plus tôt, ou, Et du coup, voilà, que ça serve un peu d'exemple. Moi, je me considère vraiment, vraiment pas comme un exemple. J'ai jamais voulu être le porte-drapeau du handicap, etc. Mais il se trouve quand même qu'il y a plein de gens qui sont venus me voir. J'avais écrit un texte qui s'appelait Sixième Sens, ce qui parlait du handicap. J'ai fait ce film qui s'appelle Patient, qui parle du handicap. Et il y a énormément de gens, et notamment des personnes en situation de handicap, qui sont venus me voir en me disant merci, ça nous a fait du bien. C'est des beaux exemples. Alors moi, je me prétends pas modèle. Mais en tout cas, voilà, ce genre de choses peut aider parce qu'on va voir d'autres personnes dans ce cas-là. On discute avec eux et qui de mieux placé qu'un handicapé peut expliquer à un autre handicapé qu'il y a plein de choses à faire dans la vie.
Et est-ce que vous conseillerez à un jeune, par exemple, je sais pas, d'écrire du slam, de la musique ou un roman justement pour extérioriser, que ce soit après l'annonce ou par exemple, même s'il a eu le handicap toute sa vie pendant une crise d'adolescence?
Ouais, tout ce qui est l'art, évidemment, on sait que ça remue des choses en nous. L'art, ça fait, quelque chose de très introspectif. On va aller chercher nos forces, nos faiblesses, nos états d'âme en nous pour essayer d'en faire quelque chose de beau, quelque chose de vivant, quelque chose d'artistique. Donc, oui, on peut essayer de conseiller ça. Et c'est ça qui est bien quand on est handicapé, c'est que l'art, tu peux en faire quoi qu'il arrive, quel que soit le handicap, tu auras toujours une piste artistique à développer. Donc, c'est pas la recette magique absolue, mais en tout cas, ouais, on peut conseiller ça, d'aller écrire. Moi, j'ai lu des recueils de poèmes incroyables de personnes qui sur le Locking syndrome, tu sais, qui ne peuvent absolument plus rien bouger sauf la paupière. Ben même eux, c'est des artistes. Juste avec la paupière, il a dicté tout un livre, tout un recueil de poèmes, et c'est un artiste, c'est un poète incroyable. Donc voilà, l'handicap n'empêche pas d'être artiste, ça c'est important. Et l'art, on sait que ça remue pas mal de choses, donc ça peut faire du bien.
Une dernière question.
Ouais, donc la dernière question, donc je pratique la plongée et la natation en tant qu'handisport. Est-ce que vous pratiquez un sport handisport justement?
Non, pas du tout. Alors c'est pas très facile de pratiquer un sport handisport quand on est en ancien tétraplégique, c'est-à-dire que moi je suis debout et tout, mais il y a rien qui marche vraiment à 100%. Donc c'est quand même un peu plus facile de faire du handisport quand on est paraplégique. Par exemple, on peut faire du comme moi je faisais du basket, j'aurais pu faire du basket fauteuil, du tennis fauteuil, etc. Moi il se trouve que mes bras, ils sont pas, même ma main elle marche pas très bien, mes bras sont pas à 100%. Donc du coup, bon, bien sûr je pourrais en faire quand même, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et au-delà de ça, j'ai pas ressenti le besoin. Peut-être que j'avoue et j'assume, c'était peut-être trop compliqué pour moi de passer du statut de sportif valide à sportif handicapé. J'ai pas trouvé d'envie par rapport à ça. Voilà, j'ai trouvé autre chose.
Tom, ta réaction à ces conseils de grand corps malade à Pascaline?
C'est marrant parce que grand corps malade, je l'ai croisé quand même quelques fois dans ma vie.
Dans quel contexte?
On a fait une battle de slam ensemble à la Villette.
Donc une battle, une confrontation.
Ouais, c'est ça, tout à fait. C'était au début on était dans la même équipe, puis après on avait éliminé l'autre équipe, on a fini par faire une battle l'un contre l'autre. Je devais avoir 15 ans à l'époque, 15-16 ans. Donc voilà, donc c'était ma première fierté, j'avais battu Grand Corps Malade en battle.
J'avais gagné en plus.
J'avais gagné, mais j'avais gagné parce que bon, ils avaient aussi voulu que je gagne hein, parce que j'avais 15 ans et c'était cool et c'était à l'applaudimètre et il faut savoir qu'ils m'avaient applaudi aussi. Donc bon, c'était cool. Mais ces conseils, je les trouve forcément assez chouettes parce que je trouve que c'est une personne qui est très très respectable. Moi, ça me fait rire la chanson qu'a choisi Pascaline. Faut savoir que bon, ça se voit pas à la radio, mais j'ai un t-shirt Justice en banlieue. Voilà, je voulais quand même le préciser. Et du coup, ouais, ces conseils, je les trouve très beaux parce que effectivement, l'écriture peut aider, mais en même temps, n'est pas une solution magique. Je pense que chacun a une manière d'apprécier les choses, de grandir différente. Et je pense que effectivement, l'art en général, comme il le dit, peut aider. Et en même temps, c'est pas une obligation non plus. Voilà, le sport, ça peut être une manière aussi de s'en sortir. Enfin voilà, c'est le fait d'avoir, en tout cas, d'avoir
un objectif.
Un objectif, ouais. Un objectif, quelque chose à améliorer tous les jours, en fait.
Toi, dans ton parcours personnel, tu te retrouves dans ces conseils-là. Ça a eu le même impact pour toi, le même déclic, le slam dans ta vie?
Le slam m'a surtout ouvert des portes que j'avais pas forcément même pensé à ouvrir avant. Je suis arrivée au théâtre par le slam. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est mon métier d'être comédien. Et j'y suis arrivée par le slam. Donc forcément, ça m'a ouvert des portes. Après, la vie ouvre des portes à chaque fois. C'est une rencontre qui en amène une autre, qui en amène une autre. Et c'est vrai que l'écriture m'a amené, en tout cas, beaucoup de rencontres et m'a amené des rencontres très variées. Et c'est ça qui est beau avec le slam.
Donc justement, Tom, tu es acteur, tout juste diplômé de l'ESCA, l'École supérieure des comédiens par l'apprentissage. Tu es née fille, mais aujourd'hui tu es un garçon. Dans ton métier de comédien, est-ce que tu auditionnes essentiellement pour des rôles masculins ou aussi parfois féminins ou transsexuels?
Alors, j'auditionne exclusivement pour des rôles masculins. Mais pour l'instant, on m'a jamais proposé de rôle transgenre. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est comment traiter la question, comment faire pour proposer des rôles transgenres et qu'ils soient joués par des gens transgenres. Ça, c'est très compliqué. C'est un gros débat de comment faire. Parce que oui, le métier d'acteur, c'est jouer quelqu'un d'autre. Mais en même temps, il y a tellement peu de rôles pour les transgenres que quand il y a un rôle transgenre et qu'il est joué par une personne cisgenre, forcément, c'est choquant. Malgré le fait que ce soit un métier d'acteur.
C'est le reproche d'ailleurs qu'on a fait à Grand Corps Malade, qui dans son documentaire, dans son film, dans son film Patient, n'a fait jouer que des acteurs qui n'étaient pas handicapés en fait.
Et c'est très compliqué parce qu'en même temps, moi j'aimerais qu'il y ait plus de rôles transgenres et en même temps j'ai pas envie de jouer que des rôles transgenres non plus. Donc
plein de contradictions.
Donc c'est difficile aussi d'avoir de pouvoir gérer ça. Moi j'aimerais jouer des rôles intéressants, qui soient des rôles de transgenre ou des rôles de personnes cisgenres, tant que le rôle est intéressant et raconte une histoire intéressante.
Merci Tom d'être venu à nous et bonne chance donc. Merci et bonnes vacances à Pascaline qui ne s'interdit rien dans la vie et qui est actuellement en vacances en camping dans le sud avec ses copines dont trois sont en fauteuil roulant. Un très très grand merci à Jérémy Bessé qui a réalisé cette émission avec passion et singularité. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions, les photos des jeunes et les liens internet sur notre page Le Monde est à nous sur RFI.fr ainsi que nos réseaux sociaux. On se retrouve dimanche prochain, même heure, pour parler, et oui vous avez deviné, pour parler de l'école, car c'est bientôt la rentrée. Peut-on croire en l'école? On se posera la question avec Gabi, 16 ans, qui a décidé d'arrêter le lycée, et avec Tess, 20 ans, qui elle a rejoint le lycée autogéré de Paris. Rentrée alternative donc dans Le Monde est à nous sur RFI. D'ici là, dégustez chaque minute de votre été singulier. Salut à tous.
À la semaine prochaine.